Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Claude Debru. Claude, j'aimerais que tu te décrives, puisque tu n'es pas facile à rentrer dans une case. Quelle est la case dans laquelle je dois mettre Claude Debru ?
Histoire, philosophie des sciences, de la vie et de la médecine. Ça, c'est tout à fait clair. Histoire et épistémologie, en enlevant philosophie, des sciences de la vie et de la médecine, c'était l'intitulé du poste de correspondant que j'ai occupé à partir de 1993.
Comme tu le sais, nous organisons à l'Académie des sciences un colloque sur l'erreur dans les sciences. Et nous allons parler aujourd'hui d'une erreur assez incroyable qui a détourné l'Union soviétique de la vraie biologie, peut-on dire, pendant très longtemps. C'est l'affaire Lysenko, dans laquelle un homme a réussi à profondément tromper toute une activité scientifique pendant 30 ans ou presque. Alors dis-moi, qui était ce monsieur Lysenko ?
Ici Moscou, Radio Vérité.
Alors ce monsieur Lysenko était un homme qui n'avait pas une grande éducation. D'abord, il faut donner ses dates de naissance, 1898-1976. Donc il a vécu assez longtemps, 78 ans. Il a reçu une éducation tardive en matière d'agronomie, mais agronomie extrêmement, je dirais, frustre. Et il s'est lancé dans des affaires qui touchaient précisément le rendement agricole.
Donc il était ukrainien, n'est-ce pas ?
Il était ukrainien, oui, c'est important de le dire. Le rendement agricole, les blés ukrainiens, chacun sait que le sol est particulièrement fertile et particulièrement adapté à la culture de céréales, ce qui a une valeur évidemment géopolitique considérable, comme on le voit aujourd'hui. Trofim Lysenko a commencé à faire des choses, essayant d'améliorer les rendements. Il faut dire que c'était à partir de 1928, et il faut dire qu'à l'époque, tout de même, l'Union soviétique souffrait d'une épouvantable malnutrition, disette, etc., qui avait été causée par les politiques de collectivisation forcée menées après la Révolution.
C'est vers quelle date qu'ont eu ces famines absolument abominables initiées par Staline ?
Alors ça, à l'époque stalinienne, c'était à la fin des années 30.
D'accord.
Et en particulier en Ukraine, précisément. Il y a eu une famine épouvantable. Ce monsieur Lysenko, c'était donc un agronome. Un agronome qui, était dans un état de conscience épistémologique extrêmement faible. Ce en quoi c'est intéressant pour le sujet de l'erreur, qui sera notre prochain sujet, c'est que, au fond, les normes épistémologiques de sa pratique de l'agronomie étaient quasiment inexistantes. Je veux dire qu'il se contentait d'un nombre de résultats extrêmement faible. Il n'y avait pas de reproductibilité des résultats. C'est particulièrement difficile en agronomie, mais quand même, très faible reproductibilité des résultats. Et surtout, tout ce qui était résultat qui ne lui convenait pas ou qui ne rentrait pas dans le cadre de ses attentes était complètement négligé. Ignorance des résultats négatifs. Donc ça fait quand même trois choses du point de vue de l'erreur, précisément, qui sont tout à fait...
Inexcusables,
à dénoncer, même à son époque. Mais cela dit, l'ignorance des résultats négatifs, c'est quelque chose qui continue à hanter un certain domaine parascientifique, dirais-je, voilà, pour être gentil. Donc, ceci le conduisait dans une sorte de dogmatisme qui s'est emparé de plus en plus de son esprit. Ce qu'on peut dire, c'est que il a été de plus en plus entraîné, pas malgré lui, mais dans un contexte où il y avait d'autres idéologues.
« Quelle était son erreur ?
Alors, son erreur principale, il y en a beaucoup. Il y en a énormément, il y a tout un catalogue d'erreurs. Mais ce qui m'a le plus intéressé, c'est le problème de la dite vernalisation. C'est-à-dire que, et c'est important pour les rendements agricoles, il y a deux variétés de blé, les variétés qu'on sème en hiver, et qui sont donc soumises au froid de l'hiver, et il y a les variétés qu'on sème au printemps, qui ne sont pas soumises au froid de l'hiver, et qui ont un rendement inférieur. Les plus hauts rendements sont donc les blés d'hiver. D'où l'idée, c'est une idée qui n'est pas facile à exprimer, mais on peut soumettre des blés à un traitement analogue à l'hiver, à savoir basse température et forte humidité, pour augmenter leur rendement.
Les semences.
Les semences. C'est bien des graines qu'il s'agit, c'est les semences. Alors tout ça est assez compliqué.
À la fin juillet, toute cette verdure sera jaune comme du blé mûr.
Mais en réalité, les essais qu'a effectué Lysenko n'était pas véritablement concluant. C'est une question très difficile. Scientifiquement, il y a quelque chose, semble-t-il, derrière cette vernalisation, ou derrière la sensibilité des graines à des paramètres externes comme l'humidité ou la température. Ça, c'est clair. Parce qu'il y a certainement une plasticité du métabolisme, de la biochimie, etc. Dans cette affaire-là, c'est clair. Mais ce qu'en attendait Lysenko et derrière lui, les responsables de l'Union soviétique, c'était un fort accroissement des rendements des blés.
Est-ce qu'on peut rappeler, parce que je pense que c'était à l'époque une chose bien connue en biologie, c'est ce qu'on dit rapidement, c'est que les caractères acquis ne se transmettent pas. Ça, c'était il a fallu du temps, pendant très longtemps, pendant le 19e siècle, c'était pas bien sûr, etc. Mais à l'époque de Lysenko, c'était un fait. Un caractère acquis ne se transmet pas, et en particulier, c'est pas en mettant des graines dans l'humidité ou je ne sais quoi qu'on va changer la variété de blé qu'il va produire. Absolument. C'est un peu modulé aujourd'hui avec l'épigénétique, mais il n'empêche que ce dogme, c'est même pas un dogme, c'est un fait. C'est un dogme que M. Lysenko a contredit, en quelque sorte.
C'est-à-dire, il a fait la deuxième erreur de penser que ces caractères étaient transmissibles, héritables. Voilà. Ça, c'est tout à fait clair. C'est une deuxième erreur. Cela dit, il s'est lancé dans une sorte de philosophie, totalement délirante d'ailleurs, tout simplement. C'est que c'est le fondement de la véritable biologie. Et c'est un fondement matérialiste et du matérialisme dialectique. C'est-à-dire que ça a été le matérialisme dialectique qui a servi d'épistémologie, en quelque sorte, à Lysenko. Ce qui est incroyable, c'est-à-dire ça consiste à fonder la science sur des présupposés philosophicaux, etc., idéologiques. Et politique, in fine, bien entendu.
Lysenko était, entre guillemets, cultivé politiquement, ou il avait juste une conception du matérialisme scientifique qu'il avait été obligé de suivre, en quelque sorte ?
Non, je pense qu'il a suivi, effectivement. Et il a suivi parce qu'il était sous l'influence d'un idéologue qui s'appelait Prezent, et qui était un grand débatteur. Et donc, il y a eu une association à partir des années 30... entre Lysenko et Prezent, qui a fait que cette biologie est effectivement devenue une sorte de religion d'État matérialiste dialectique qui s'est substituée à la vraie biologie. Mais ça a été extrêmement discuté parce que tous les collègues agronomes ou généticiens n'étaient pas toujours d'accord. Et même très souvent, il y a eu des discussions, il ne faut pas l'oublier.
Parce qu'il y avait, de bons biologistes.
Il y avait de très bons biologistes.
À cette époque. Mais ils n'ont pas été suffisamment capables de lutter contre Lysenko.
C'est-à-dire qu'ils se sont heurtés finalement, vers la fin des années 30, plus fort que sur le plan politique. C'est-à-dire que Lysenko, s'est approché de Staline, s'est inféodé au stalinisme, et pour poursuivre ses propres chimères. Si
donc Staline
dire.
A gobé toute l'affaire.
Et pourquoi pas Joseph ? C'est classique et joli.
Ah ben non, Joseph, c'est pas possible.
Pourquoi ?
Joseph Staline.
Staline a gobé toute l'affaire, pas complètement, mais quand même, il a fini par gober toute l'affaire. Mais il n'a pas toujours été d'accord avec la fameuse distinction entre sciences bourgeoises et sciences prolétariennes. Sciences bourgeoises, c'était une sorte d'étiquette qu'on collait sur les généticiens orthodoxes, les généticiens mendéliens, les généticiens, etc. Sciences prolétariennes, alors il s'est un petit peu écarté de cette dichotomie épouvantable, bien entendu. Il a fini par comprendre que c'est une dichotomie sans avenir scientifique. Staline a relu l'intervention de Lysenko dans la fameuse réunion de 1948, dans laquelle Lysenko a réussi à écraser ses adversaires, parce qu'il avait toujours des adversaires. Donc il a réussi, et pendant 4 ans, de 1948 à 1952, Lysenko a été le grand maître de la biologie soviétique. Biologie soviétique, laquelle était purement matérialiste, dialectique. Matérialiste soit, mais surtout dialectique. C'est-à-dire les relations entre le milieu et l'organisme. Voilà, c'est ça qu'il y avait là derrière.
Alors, est-ce qu'on peut dire que Lysenko était un menteur, ou bien quelqu'un de naïf qu'il a cru lui-même à ce qu'il racontait, ou bien c'est une vaste opération d'escroquerie, ou c'est un peu entre les deux?
Je pense que c'est un fraudeur, parce qu'il a vraiment falsifié, on a les preuves, qu'il a fini par falsifier les résultats, qui n'étaient pas si évidents, si glorieux, de ces techniques de vernalisation. Les rendements n'étaient pas si améliorés que ça. Non, mais ce qu'il y a d'important à dire aussi sur le plan politique, c'est que l'administration soviétique avait besoin de résultats rapides et que les généticiens classiques faisaient des expériences d'hybridation dont les résultats, etc., etc., ça prenait beaucoup plus de temps. Donc Lysenko a promis des résultats rapides. Il a intoxiqué l'administration soviétique. Et apparemment, il a été amené, pour se maintenir, à frauder. Ça, c'est avéré.
J'ai lu que suite à toutes ces affaires de Lysenko, l'enseignement de la biologie a été profondément modifié en URSS, à tel point, semble-t-il, que pendant une année, tous les profs de biologie ont été ramenés à l'université ou je ne sais quoi pour apprendre la biologie à la Lysenko.
Oui. Il y a eu une énorme suppression d'espèces d'enseignement, de chair, etc., pendant longtemps. Et puis, lorsque les Russes ont fini par comprendre que tout ça n'était qu'une vaste escroquerie, il a fallu refaire machine arrière et instruire les professeurs du secondaire dans la vraie biologie, la génétique.
Alors comment cette supercherie a été dévoilée?
Je pense qu'il y a toujours eu des opposants. Il y avait des discussions vives, fortes. Ça n'a jamais cessé. Il y a eu quand même des généticiens de haut vol en Union soviétique. Et il y avait Timofeev Ressovski, qui a été persécuté puis qui a été remis à l'honneur, évidemment. C'est terrible. Il y avait Dobzhansky, qui est parti aux États-Unis, parce qu'il ne supportait plus l'atmosphère stalinienne. Et il y avait un monsieur, un Américain, qui était monsieur Hermann Müller, qui était très connu pour ses travaux sur la mutagénèse par les rayons X, donc l'action sur les chromosomes, qui a été attiré par le mythe soviétique, qui est resté plusieurs années à Moscou, donc qui a travaillé pour la science russe, mais qui a fini par se rendre compte que ça ne marchait pas, et donc il est rentré chez lui.
Lysenko a vu son image décroître progressivement, ou bien un jour il a été banni comme On imagine dans les grandes réunions du Parti communiste central, là, où on voit que quelqu'un est tout à coup accusé et mis au banc.
Je ne pense pas que ça soit se passer comme ça. Parce qu'il faut ménager, n'est-ce pas, les uns et les autres, ceux qui ont protégé Lysenko dans le nomenclatura, etc. Donc ça, c'est peut-être pas passé comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a été démis de pratiquement toutes ses fonctions, parce qu'il avait de nombreuses fonctions, dans le système académique russe, dans plusieurs académies, y compris l'Académie des sciences. Il avait beaucoup de fonctions, chef de laboratoire, etc. On ne l'a pas totalement démis de tout quand on l'a écarté. On l'a écarté lorsque Khrouchtchev a été limogé, parce que Khrouchtchev avait finalement continué à protéger Lysenko.
Mais le départ de Khrouchtchev, c'est
64.
Donc ça veut dire que cette supercherie a duré...
30 ans.
30 ans.
Au bas mot.
30 ans pendant lesquels la biologie soviétique était en total désaccord avec la biologie de l'Ouest, on peut dire.
Oui, en total désaccord. Bon, il y en avait d'autres, il n'y avait pas que Lysenko. Il y avait en particulier Nikolaï Vavilov, qui était... D'abord, il a protégé Lysenko parce qu'il était intéressé par les résultats préliminaires, enfin par l'idée même de vernalisation. Donc il a été... intéressé par certains résultats, enfin certaines idées de Lysenko. Et puis, ça s'est très mal passé. Vavilov était un grand collectionneur de génétique. Voilà, il avait une collection extraordinaire de spécimens, d'échantillons du monde entier. Et donc, cela ne l'a pas aidé dans sa carrière, parce que cela était une science fondamentale dont on ne voyait pas clairement l'application. Donc Vavilov, c'est une histoire très triste parce que Vavilov a été vraiment persécuté, a été emprisonné. Alors les uns disent que Lysenko est responsable de la disgrâce de Vavilov parce qu'il a cessé à partir d'un certain moment de le critiquer, ce qui est sans doute vrai. Mais Lysenko a dit qu'il n'était pour rien dans l'emprisonnement de Vavilov. Et Vavilov est mort en déportation, si je puis dire, au Goulag en 1943.
Est-ce que Lysenko a été amené à un moment à faire une autocritique comme on en voyait parfois en Union soviétique ?
Non, je ne pense pas. On lui a enlevé tout, presque tout, pas tout. On ne lui a pas tout enlevé. Mais toutes ses responsabilités académiques, oui. Il est mort à 78 ans apparemment.
Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste de Lysenko dans la perception de la biologie en Union soviétique ?
Je pense que la biologie soviétique s'est remise tardivement, mais s'est remise de l'affaire Lysenko, et que la France a joué un certain rôle dans la rééducation de la biologie soviétique, en particulier en matière de génétique et de biologie moléculaire. Donc je pense que Lysenko, c'est quand même du passé, mais je m'interroge beaucoup sur la science soviétique actuelle.
Après tout, nous ne sommes pas des communistes.
Dis-nous maintenant, quelles leçons on peut tirer de cette abominable erreur, et comment est-ce qu'on peut espérer ne plus tomber dans ce genre de travers ?
Ben justement, c'est quelque chose auquel beaucoup de gens ont pensé. Merci de poser cette question. Et j'ai quelques réponses sous la forme de quelques jugements de Jacques Monod dans sa préface au livre de Jaurès Medvedev, Grandeur et chute de Lysenko. Alors je me permets de faire une petite citation. Qu'un charlatan autodidacte et fanatique, épu, au milieu du XXe siècle, obtenir dans son pays l'appui de tous les pouvoirs, le parti, l'État, la presse, sans compter les tribunaux et la police, pour imposer en biologie une théorie inepte et en agriculture des pratiques inefficaces, parfois catastrophiques. Que cet illuminé soit en outre parvenu à faire jeter l'interdit officiel sur l'enseignement comme sur la pratique d'une des disciplines biologiques les plus fondamentales, la génétique, voilà qui passe l'imagination. C'est pourtant ce que Lysenko a su accomplir en URSS pendant plus de 30 ans. Mais, poursuit mono, et ça c'est très intéressant. Qui donc oserait affirmer que de telles pseudo-sciences ne survivent ou ne se développent pas aujourd'hui encore dans d'autres domaines de la connaissance, et pas seulement chez les totalitaires ? Croit-on que les pseudo-univers aient vraiment totalement et partout disparu du champ du savoir ? Ce jugement de Monod est très, très, très remarquable. Je pense qu'on peut dire que l'état de la science, la qualité de la science, dépend beaucoup du système politique.
Quelle serait la musique qui, selon toi, illustrerait cet épisode malheureux de l'histoire des sciences ?
Je pense que le musicien russe Shostakovich, qui est tombé en disgrâce par Staline, parce que Staline trouvait que telle ou telle œuvre était un petit peu trop érotique, serait une bonne illustration des méfaits du système soviétique sur l'art, et en particulier la musique, la culture en général.
Alors, vous avez écouté le concerto pour violon numéro 1 de Shostakovich, composé en 1947-48, premier mouvement, nocturne, interprété par l'orchestre Sostenuto au violon Nicolas Gourbeix et dirigé par Takashi Kondo.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Canal Académie.